Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être venus nombreux à l'invitation de l'association Argos 2001 pour cette sixième conférence de rentrée. En effet, c'est la sixième année, les quelques anciens le confirmeront, que cette association fonctionne à Poitiers sur le thème et autour de la maladie bipolaire, les troubles de l'humeur. Argos est une association d'aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leur entourage. Les troubles bipolaires, certainement plusieurs personnes connaissent déjà, d'autres personnes moins. Le docteur Jaffari nous en fera une présentation tout à l'heure. Nous sommes ensemble pour environ 2 heures et il faudra avoir fermé à 22h30. Donc, il y aura une présentation à deux voix avec le docteur Jaffari et madame Quentin. Alors, on va parler je vais dire un mot de l'association dans un premier temps. J'ai déjà commencé. Les objectifs, c'est mieux connaître et faire reconnaître les troubles bipolaires. Aider les patients à gérer leur maladie, nous parlons de psychoéducation. Nous, à Argos, nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, dans les associations de santé, à penser que plus le patient connaît sa maladie, et plus mieux il peut la gérer. Avec, évidemment, le personnel soignant et les médecins. Nous tendons à apporter un soutien aux proches. Quand une personne souffre d'une maladie psychique, la personne elle-même souffre, mais son entourage aussi. Donc, il nous paraît important de rencontrer les personnes, entre guillemets, malades et les personnes qui les accompagnent. Enfin, un objectif tertiaire, quaternaire là, c'est favoriser la recherche médicale dans ce domaine. Ce n'est pas l'objectif de ici à Poitiers, notre association. C'est l'objectif de l'association nationale. Association nationale créée en 2001 à l'initiative de patients et de leurs proches. Aujourd'hui, nous tournons autour de 800 adhérents. Je n'ai pas demandé le dernier chiffre. 9 antennes en France. C'est une association basée sur le bénévolat totalement. Donc, à des périodes, nous avons eu jusqu'à 14 antennes dans quelques départements français. Certaines apparaissent et certaines autres disparaissent. Et voilà, c'est le fait du bénévolat. Et chaque fois qu'il y a une antenne quelque part, elle draine plus d'un département. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui viennent de Tours, de Limoges ou d'Angoulême. Le siège d'Argos est à Paris et la présidente est Madame Labbé. Elle est elle-même atteinte de cette maladie, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une activité professionnelle et d'être présidente de cette association. Argos est adhérent à la FNAPSI, qui est une des fédérations de patients et de proches en psychiatrie. Il y en a deux grandes, trois. Il y a UNAFAM, Croix-Marine et FNAPSI. Dans la Vienne, c'est la sixième année d'activité, comme je viens de le dire. Ce que nous faisons à Poitiers, ce sont des réunions d'information. Bon, 10 réunions par an et des groupes de parole, 14 rencontres, y compris en juillet et août. En tout, 14 rencontres. 14, ça fait beaucoup, ça. Si, ça peut être ça. Ça fait un peu plus qu'une par mois. Donc, je corrigerai le transparent. Nous avons vu aujourd'hui 300 personnes environ de la Vienne et des départements voisins. Et nous avons environ 35 adhérents. Argonne, c'est une association indépendante des structures médicales, hospitalières et pharmaceutiques, basée sur le bénévolat. Elle s'appuie sur un réseau de relations personnelles et choisies avec des soignants et des acteurs sociaux qui partagent nos objectifs et nos pratiques. Et nous avons des partenaires importants, la commune de Vouneuil-sous-Biard où ont lieu nos réunions et l'espace Mendès France ici qui nous accueille annuellement sur des thèmes autour de la santé mentale. Et nous les en remercions parce que c'est un lieu qui est très visible et très... et ça entre bien dans sa mission de diffusion scientifique, de culture scientifique et technique. Et le président ou ancien président est là ce soir pour témoigner de ce partenariat. En fin 2007, le ministère de la Santé, le ministère, a attribué l'agrément à l'association Argos 2001, ce qui lui permet de siéger dans les hôpitaux et dans les instances. À ce titre, elle est représentée à l'hôpital Laborie. Les contacts, le téléphone, répondeur information, un email, un site web national, une adresse postale, les réunions 18h30, 20h, 20h30, selon que ça c'est une réunion d'information ou un groupe de parole. Des fois, ça s'étire un peu lorsque la matière s'y prête. Et nos réunions ont lieu à Vouneuil-sous-Biard, salle d'Étienne, à Précharreau. Voilà pour ceci. Nous allons, par rapport au programme initial, je voudrais bien que cette chose-là se ferme. Nous aurons deux intervenants comme prévu, mais ce ne sont pas exactement les mêmes, mais que cela ne tienne, et nous allons changer un tout petit peu, pas trop quand même, nous verrons. Donc voilà, on va faire comme ça. Non, ça ne descend pas assez. Et nous allons commencer par un rapide survol de la maladie bipolaire et des troubles de l'humeur. C'est le docteur Jaffari qui le fera également, si j'ai bien compris. Et ensuite, nous mettrons l'accent sur la RTMS. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, mais si vous êtes venu sur ce thème-là, je pense que vous avez peut-être une petite idée. Dans une deuxième partie, ou troisième, puisqu'il y a deux intervenants, nous aurons des questions avec la salle. Ça nous permettra peut-être, et probablement d'ailleurs, de compléter certains points qui vous intéressent ou qui nous intéressent personnellement. Et si vous souhaitez en savoir plus, nous vous incitons à venir à nos réunions mensuelles d'information qui, cette année encore, seront assurées avec compétence et enthousiasme par le docteur Rose, qui donc ne peut pas être là ce soir. Bon, nous avions demandé l'année dernière au docteur Lévy de parler des ECT, et je remercie le docteur Jaffari, au nom de l'association, d'avoir accepté aujourd'hui de parler de cette nouvelle technique, la RTMS. Nous allons voir en quoi elle pourrait entrer dans l'arsenal du soin de certaines maladies psychiques, et en particulier de la dépression, qui, comme vous le savez ou vous le saurez, est un des volets de la maladie bipolaire. Voilà pour moi, pour l'instant. Donc, je passe la parole au docteur Jaffari. On a une petite manip technique à faire. C'est celle-là. On fait juste ça. Hein. Ça marche tout seul. La technique, c'est quelque chose de merveilleux.
Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venu ce soir pour qu'on puisse partager un moment autour de la dépression particulièrement. D'emblée, je le dis, et donc vous comprendrez aussi bien que il y a un certain nombre d'entre vous qui sont suivis par moi-même ou par mes collègues dans le service. On ne fera pas de questions personnelles. Ça, je le dis tout de suite, je ne répondrai pas aux questions personnelles, je répondrai à des questions d'une manière globale qui ne touche pas chaque individu. Vous le comprendrez bien qu'on ne peut pas ici faire une consultation. Voilà. Alors, je voudrais parler particulièrement de la dépression et puis alors se poser aussi la question de la dépression. Tout de suite arrive... tout de suite arrive la question pourquoi venir ce soir pour moi ici et parler de la dépression avec vous. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a une modification des rapports, des contacts qu'on peut avoir avec les patients. Jusqu'à, je pense qu'aujourd'hui, il faut considérer plutôt, souvent je le dis aux patients, donc ce rapport médecin-malade qui existe en termes de soins, cette relation médecin-malade doit être évoluée et cette fois-ci ne plus voir médecin-malade, mais médecin-malade, la famille, la politique, contre la maladie et pas contre le malade. Voilà, c'est dans cette idéologie d'école de pensée, si on veut, qui se place un peu mon intervention. Et si on considère les choses de cette manière-là, ça voudrait dire qu'il faut informer les patients pour qu'ils connaissent parfaitement leur pathologie. Et à partir du moment qu'ils connaissent leur pathologie, la prise en charge devient beaucoup plus simple. Et bien souvent, je dis à mes étudiants, il suffit d'écouter les patients et ils vous apprennent parfaitement ce que c'est que la maladie bipolaire ou une dépression. Alors, le fait d'informer aussi, ça permet de sortir de cette banalisation qu'on dit souvent c'est une petite déprime, c'est pas grand-chose. Ça permet de sortir aussi de cette question souvent qu'on entend que la dépression, c'est pour les gens qui ont un caractère faible. Vous voyez, c'est ce qu'on peut entendre. Il faut aussi le fait d'informer, ça permet d'améliorer la prise en charge, ça permet de faciliter l'acceptation de la maladie dépressive ou la maladie bipolaire, et donc du coup améliorer ce qu'on appelle l'observance. Qu'est-ce que ça veut dire l'observance ? C'est le fait de suivre son traitement. Et quand je dis traitement, entendez bien ce que je veux dire par le traitement. Pour moi, le traitement n'est pas seulement des médicaments qu'on va prendre, des comprimés qu'on va prendre. Pour moi, le traitement, c'est un traitement par la psychothérapie en premier, puis par associé à un traitement pharmacologique. Hein? Donc le mot traitement dans ma bouche, à chaque fois, ça veut dire l'association des deux et pas l'une plus que l'autre. Quoi. Enfin, pardon, plutôt l'un plus que l'autre. Et donc, par exemple, c'est aussi d'informer les patients, ça permet de combattre les idées reçues par rapport au traitement, cette fois-ci, des antidépresseurs. Et je me rappelle encore des patients qui disent « je ne veux pas prendre de médicaments parce que je ne suis pas drogué ou alors je vais m'habituer, je ne vais pas pouvoir l'arrêter ». Alors il faut bien faire attention à une chose, c'est que habituellement les thymorégulateurs ou les antidépresseurs n'entraînent pas de dépendance. Ce sont des molécules comme des benzodiazépines qui entraînent une dépendance. C'est ces petits comprimés qu'on prend pour dormir, par exemple, cela, en effet, ça peut entraîner une dépendance. Et puis aussi, le fait de aussi combattre cette idée que le fait qu'on va prendre un traitement, cela va modifier la personnalité. Enfin, j'aimerais bien savoir quel est le traitement qui pourrait modifier la personnalité de quelqu'un. Bon, cette molécule-là, je ne la connais pas encore. Puis, il y a aussi le fait d'expliquer aux patients que si on arrête brutalement un traitement, il peut y avoir un phénomène qu'on appelle de sevrage. C'est comme, par exemple, qu'il faut arrêter progressivement un traitement et pas brutalement. Un exemple simple, c'est une étude qui a été réalisée en 1993, chez les patients bipolaires, on verra le type 1, le type 2, ce que ça veut dire. C'était des patients qui prenaient du lithium. D'accord ? Et on sait déjà que les patients bipolaires ont plus de risques suicidaires, de conduite à risque et des maladies cardiovasculaires. Et bien, ces patients qui prenaient du lithium pendant 2 années de suite, et bien, avaient globalement un risque moindre de développer un risque suicidaire, des conduites à risque ou des maladies cardiovasculaires. Alors, ce que je dis toujours, c'est pourquoi cette étude réalisée de cette manière, Vous savez que la problématique des études d'une manière globale, c'est qu'il faut évaluer ce qu'on peut évaluer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est facile de compter le nombre de comprimés par le patient lui-même ou sa famille ou le médecin et dire à la fin est-ce que le traitement a été pris ou pas. Ce qui est beaucoup plus compliqué dans une psychothérapie, dans un travail de psychothérapie, quand vous êtes en face d'un médecin ou psychothérapeute, vous pouvez avoir essayé de travailler, mais comment est-ce qu'on peut structurer les choses pour les évaluations ultérieures? Or, la majorité des études sur des évaluations ont été portées sur les médicaments, parce que c'est plus facile à étudier. Or, depuis quelques années, vous le savez maintenant, que les thérapies cognitivo-comportementales où on fait, par exemple, 15 séances ou 20 séances ou 30 séances, on peut aussi essayer de l'évaluer en tant que traitement, en tant que prise en charge d'une dépression ou d'un trouble bipolaire. Ceci dit, les thérapies cognitivo-comportementales, ce n'est pas encore une technique assez bien répandue en France. Il y en a un certain nombre de praticiens, mais dans les troubles bipolaires, la recherche n'a pas encore permis de bien situer comment est-ce qu'on pourrait réaliser ces séances chez ces patients. Ceci dit, dans la dépression, on a quelques données, dans les troubles bipolaires aussi, mais ce n'est pas encore si clair que ça. Alors, tout de suite, quand on est avec les patients, la première des choses, ou la famille, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à un patient déprimé? Alors, voilà un peu la liste. Quand j'entends la famille des patients ou des patients me rapporter des choses, j'essayais de faire une liste de ce qu'ils me disaient. Souvent, on leur dit à un déprimé, on dit, c'est une question de volonté. T'as qu'à bouger, tu verras, tu t'en sortiras. On dit, il faut mettre du... Tiens, secoue-toi, fais un effort, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu t'écoutes trop, ça ira mieux demain. Pourtant, t'as tout pour être heureux. Si t'avais un cancer, là, je comprendrais. Vous voyez, ça veut dire... Ça, ce sont la liste de ce que j'ai essayé, des termes que j'ai essayé de prendre en écoutant les patients. Et je pense que ces formules ne sont pas à dire à un patient déprimé. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'une dépression? Le fait d'être triste, de pleurer, n'est pas une dépression. Le fait de ne pas bien dormir une nuit ou deux, ce n'est pas une dépression. D'accord? La dépression, pour nous les psychiatres, et pour vous les patients, ceux qui étaient déprimés savent bien, c'est une association de plusieurs symptômes. C'est-à-dire, vous avez le moral ne va pas, vous n'avez plus envie de quoi que ce soit, vous ne dormez pas. Dans 90% des cas, les déprimés ne dorment pas. Mais dans 10 à 20%, ils dorment beaucoup. D'accord? Alors ça, j'attire votre attention parce que le fait de dormir de trop peut faire partie de la dépression aussi. Vous pouvez perdre du poids quand vous êtes déprimé, mais vous pouvez aussi prendre du poids. Et ça, c'est pareil, c'est dans 80% des cas, il y a une perte de poids, mais dans 30 à 40% des cas, il y a une prise de poids. Les déprimés, habituellement, sont tristes dans leur coin, mais il peut y avoir aussi des formes où la dépression est plutôt agitée. Hein? Alors, souvent, il y a un sentiment de dévalorisation et de culpabilité, c'est-à-dire les gens se disent, cet état-là, c'est de ma faute, et ils n'arrivent pas à se concentrer. Quand ils lisent, par exemple, ils sont obligés de reprendre ce qu'ils sont en train de faire, ils n'arrivent pas à se... Et il peut y avoir des idées suicidaires. Et donc, selon la gravité de ces symptômes, soit c'est une intensité légère, Soit c'est une intensité modérée, soit une intensité sévère. Autrement dit, la dépression, quand elle est là, il n'y a pas de petite dépression ou de grande dépression. Il y a une dépression avec une intensité soit légère, soit modérée, soit élevée. Alors, donc, si vous voulez, la dépression, c'est une maladie comme souvent on l'entend, fréquente, c'est 5 à 15% de la population. Alors souvent, quand je fais cours à des étudiants en première année, en deuxième année, ils sont nombreux dans la salle, je leur dis, il y a combien de personnes dans la salle ? 100, et bien il y a entre 5 à 15 qui sont déprimés. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans la salle sont déprimés, c'est juste pour vous représenter ce que ça veut dire. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont tous déprimés et qu'ils nécessitent là un traitement aujourd'hui. Hein? Ça veut dire qu'il y a des symptômes et ces symptômes nécessiteraient une prise en charge. Et quand on a fait une dépression, eh ben, un cas sur deux, on va refaire une dépression. Voilà. Et dans 5 à 10% des cas, ça devient ce qu'on appelle une maladie dépressive. Ce n'est plus un épisode, parce que ça continue dans le temps. Alors, ça c'est ce que vous m'aviez demandé, donc. Alors, quand vous êtes devant une dépression, vous avez deux possibilités. Soit vous ne faites que des épisodes dépressifs, soit vous faites ce qu'on appelle un trouble bipolaire, c'est-à-dire soit de type 1, soit de type 2, soit ce qu'on appelle la cyclothymie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous avez l'axe, c'est en haut c'est plus, en bas c'est moins. Quand on descend, c'est négatif, donc c'est plutôt une dépression. Et quand on monte, c'est plutôt la manie, l'accès maniaque. Comment vous représentez ? Alors, parmi vous, il y a des patients qui connaissent parfaitement ce que ça veut dire l'accès maniaque. Mais pour ceux qui ne sont pas, qui connaissent pas la pathologie, c'est en gros des patients qui sont qui ont l'impression d'être en forme malgré des nuits sans sommeil, qui sont gais, joyeux, parfois agités, ça peut aller jusqu'à des éléments délirants, et ça nécessite souvent une hospitalisation. Alors que dans les bipolarités de type 2, c'est une dépression, mais avec une hypomanie. Alors l'hypomanie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens qui dorment peu, qui sont capables de travailler beaucoup, et qui, tant qu'ils arrivent à se contrôler, la société les aime bien parce qu'ils produisent beaucoup plus que les autres, mais parfois, ça déborde, c'est-à-dire c'est aussi ceux qui consomment beaucoup, parfois au-delà de leurs possibilités économiques. Et habituellement, ces hypomanes, on ne les hospitalise pas. Alors, la dépression qui est là chez les bipolaires de type 1 et la dépression qui est là chez les bipolaires de type 2, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même prise en charge. Pourquoi ? Parce que, premièrement, le taux, je m'excuse, hein, c'est en anglais, mais globalement, c'est que les patients de type 2, vous voyez, c'est plus, il y a une plus souvent utilisation de l'alcool en automédication. On le sait tous, chez les gens qui sont fatigués, anxieux, etc., ça arrive que les patients consomment un peu d'alcool. Mais chez les bipolaires de type 2, cette consommation est plus élevée que les bipolaires de type 1. Alors, pour permettre, si vous voulez, dans l'arsenal thérapeutique, une prise en charge pour la dépression chez les patients de type 1 ou de type 2, il y a eu une réunion en 1997. Et donc, pour proposer une classification selon la sévérité de la maladie. C'est-à-dire, on va considérer, comme tout à l'heure je vous ai dit, il y a des dépressions très sévères et des dépressions moins sévères. Et donc, la prise en charge va de stade 1 au stade 5. Le stade 1, 2, vous voyez, 3, c'est-à-dire on a utilisé des traitements, et particulièrement les traitements qui sont très efficaces, c'est-à-dire les tricycliques, et qu'on peut aussi faire une prise de sang pour voir est-ce que la concentration plasmatique de ce traitement est dans les marges thérapeutiques. Puis, on va parler de la résistance à partir du moment où on a utilisé des séances de sismothérapie qu'on appelait autrefois l'électrochoc et que le patient n'a pas répondu. Alors, vous verrez tout à l'heure que ces traitements antidépresseurs que vous connaissez déjà, vous avez peut-être entendu parler, ceux-là, on utilise beaucoup moins. Les sérotoninergiques, on l'utilise beaucoup plus. Et les autres qui n'ont pas de classification particulière aussi. Sauf que ces traitements, lorsqu'on les utilise chez les patients déprimés de type, vous avez vu, pas des bipolaires, eh bien, ça ne suffit parfois pas et on associe ces traitements ensemble. Et parfois, pour augmenter l'action de ces antidépresseurs, on va les potentialiser par des thymorégulateurs ou des hormones thyroïdiennes ou des antipsychotiques. Sauf que quand vous allez l'utiliser chez les patients bipolaires, ces antidépresseurs, il y a ce qu'on appelle un risque de virage maniaque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez un trouble bipolaire de type 1 ou de type 2, ou alors si vous avez des antécédents familiaux de troubles bipolaires, lorsqu'on va mettre un traitement antidépresseur, vous risquez de passer de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez-vous, vous êtes en face d'un patient qui est déprimé, qui vient pour une dépression, vous lui donnez un traitement et tout se passe comme si le patient était guéri en 3 semaines, en 15 jours ou une semaine. Pourquoi ? Parce qu'il passe de l'autre côté. Or, là aussi, c'est aussi pathologique que quand on est en bas. L'idéal, c'est de rester autour de cet axe. Et donc, pour éviter le passage de l'autre côté, on propose un traitement thymorégulateur. Je crois que là, j'en ai assez parlé. Alors, une forme de dépression, et je voudrais attirer votre attention sur cette forme, c'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière. La dépression saisonnière, c'est une forme proche des troubles bipolaires. Et en fin de compte, pendant les mois d'automne et hiver, les patients sont déprimés, et pendant printemps et été, les gens sont hypomaniaques ou maniaques. Alors, il y a des gens qui considèrent que la dépression saisonnière ne fait pas partie des troubles bipolaires. Il y a d'autres qui considèrent que ça fait partie. Mais globalement, c'est quoi ? C'est plus souvent des femmes qui, pendant l'hiver, des femmes qui aiment des aliments plutôt sucrés, et ce sont celles qui prennent du poids pendant l'hiver et qui vont en perdre pendant l'été. Alors ne prenez pas juste cet élément-là, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se regarder en disant bah, « c'est moi ». Non, c'est que c'est l'association, vous voyez, de plusieurs éléments qui permet de parler de la dépression saisonnière. Et très souvent, dépression saisonnière, ça ne sert à rien de mettre un traitement parce que ça ne marche pas et il faut mieux faire de la luminothérapie. Et encore, une fois de plus, il y a des patients qui ne répondent pas non plus à la luminothérapie. Enfin, à chaque fois qu'on utilise un traitement, Il faut savoir qu'il y a ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas. Et la vraie question derrière est de savoir qui peut répondre à quel traitement. Or, ça, ce sont des études de pharmacogénétique qui ne sont pas encore réalisées au niveau international, mais en tous les cas, l'ensemble des traitements qu'on a, à chaque fois, il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des gens qui vont répondre, des gens qui répondent moyennement et des gens qui ne répondent pas à un traitement. Ça ne veut pas dire que le traitement, il ne faut pas le proposer, il ne faut pas le faire. Ça veut tout simplement dire que dans les années à venir, il faut tenter d'adapter les profils des maladies, enfin des patients, à des traitements particuliers. Alors, si on essayait maintenant de comprendre un peu comment les choses fonctionnaient, d'accord ? Ce que je vous raconte là, c'est pas... Enfin, je vais essayer de faciliter les choses pour votre compréhension. C'est beaucoup plus compliqué, mais quand même, ça marche comme ça. C'est que jusqu'à maintenant, les traitements qu'on proposait, c'était soit des traitements pharmacologiques, et ces traitements vont agir où ? Au niveau du cerveau. Dire que... Alors ça, c'est quelque chose aussi que je dis souvent. Dire que un psychiatre doit s'intéresser au cerveau des patients, c'est tout à fait normal, parce que c'est là même le lieu d'action des traitements qu'on prescrit. Quand on fait une psychothérapie, qu'est-ce qu'on va agir ? On va agir au niveau du cortex cérébral, d'accord ? Et qui modifie un fonctionnement sous-jacent. Quand on donne un médicament, ça va agir au niveau des noyaux qu'on pense que ces noyaux vont intervenir dans la dépression ou dans des pathologies psychiatriques. Vous voyez ? Et donc, une des hypothèses, ça a été, si c'est vrai que dans les pathologies psychiatriques, il y a des modifications au niveau de fonctionnement cérébral, alors quand on fait une imagerie cérébrale, on doit voir des choses qui bougent. En effet, là, j'ai pris chez les patients obsessionnels, mais la même chose a été réalisée chez les patients déprimés, et on voit bien un fonctionnement qui n'est pas identique. D'accord ? Autrement dit, la question de fond, c'est de dire, on est parti de l'idée que le cerveau ne doit pas fonctionner normalement. Et si ça ne fonctionne pas normalement, on doit pouvoir le démontrer par l'imagerie cérébrale, mais aussi quand on met un traitement et on contrôle par l'imagerie cérébrale, eh bien, ça doit modifier. Et en effet, ce qu'on a pu démontrer par... Alors là, je n'ai pas mis des clichés, mais globalement, on démontre que il y a un dysfonctionnement entre le cortex et ce qui est sous le cortex, globalement. Alors, on peut rentrer dans les détails tout à l'heure s'il y a des gens qui connaissent un peu plus, qui veulent en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on propose maintenant ? Toujours autour de la dépression. Alors, vous savez, le système... L'utilisation des électrochocs ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on utilisait cette technique. Et in fine, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Dr Quentin va vous en parler. C'est que on apporte une quantité d'énergie de chaque côté chez un patient sous anesthésie générale. Et donc, chez ces patients, après une quinzaine de séances, on peut améliorer leur état dépressif. Alors, il faut savoir que chez les patients bipolaires, et on en a un certain nombre dans le service, qui, quand ils sont déprimés, dès qu'on met un traitement antidépresseur, ils passent de l'autre côté, ils font un accès maniaque. Et puis quand on arrête l'antidépresseur, ils redescendent et ils deviennent de nouveau déprimés. Et ces cycles-là, ils font plus de 4 cycles par an, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cycleurs rapides. Et cela, c'est que la sismothérapie permet de les améliorer. Alors, il faut savoir que quand je dis il faut oublier le terme électrochoc, parce que l'électrochoc, c'est une méthode barbare qu'on utilisait autrefois sans anesthésie générale, alors qu'aujourd'hui, la sismothérapie, ça se fait sous anesthésie générale et on adapte la quantité d'énergie qu'on apporte à chaque patient. Donc, on le fait d'une manière beaucoup plus scientifique. Alors, je passe à la question de la stimulation magnétique transcrânienne. Qu'est-ce que c'est ? La stimulation magnétique transcrânienne, justement, consiste en fait d'apporter une quantité d'énergie, cette fois-ci pas électrique, comme dans le CT, mais plutôt un champ magnétique. Je m'explique. Vous savez, dans le CT, le problème, c'est quoi ? C'est que une fois qu'on va faire des séances, le patient peut développer des troubles cognitifs et ça nécessite des séances d'anesthésie. Or, il y a des patients qui ne peuvent pas supporter les séances d'anesthésie. Or, ces patients, on ne peut pas donc leur proposer ce traitement. Et donc, à partir de ces patients ou à partir de cette difficulté d'utiliser les séances de sismothérapie chez tous les patients, cette technique a été mise en place. Donc, le patient est assis sur le fauteuil, éveillé. C'est cette machine que vous voyez ici, avec une bobine sous cette forme qu'on met sur le côté latéral de la tête. Une fois de plus, il s'agit là d'une technique qui est utilisée depuis plus de 15 ans maintenant, en 15-20 ans en neurologie. En psychiatrie, aux États-Unis, c'est utilisé depuis maintenant 10 ans. Et en France, on commence juste. Ça fait maintenant 3-4 ans. Un peu peut-être plus dans certaines villes, mais à Poitiers, par exemple, nous, on a pu obtenir cette machine que depuis un an. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le principe de fonctionnement ? Eh bien, la bobine que vous avez vue, c'est on branche sur une prise secteur et il y a une transformation de l'énergie électrique en champ magnétique. C'est exactement ce qui se passe dans une machine d'IRM. Et donc, et lorsqu'on met ce champ magnétique au niveau du cortex, d'accord, ici, eh bien, ça entraîne une dépolarisation au niveau neuronal. Et donc, à distance, une réaction neurochimique. D'accord ? C'est comme si lorsque vous prenez un traitement antidépresseur, va agir au niveau du cerveau et que ça libère soit de la sérotonine, soit la noradrénaline, mais dans la dépression, c'est plutôt la sérotonine qui est libérée. D'accord ? Parce qu'il y a un manque de sérotonine. Et donc, si ce qu'on dit est vrai, on doit pouvoir visualiser les choses par l'imagerie cérébrale. Vous savez, toute la problématique des pathologies d'une manière globale, c'est si on dit que la technique est une technique efficace, comment prouver que c'est efficace ? Quand on a dit que chez les patients souffrant d'un trouble bipolaire, il fallait prescrire des thymorégulateurs, c'est parce que on a pris, par exemple, des cohortes de 2000 ou 3000 patients sous thymorégulateurs versus ceux qui n'en ont pas. Et on voit que ceux qui n'en ont pas sont plus souvent hospitalisés que ceux qui l'ont. Vous voyez, enfin, il faut avoir des critères d'évaluation. Et là, les critères d'évaluation dans cette technique a été, bien sûr, par l'imagerie cérébrale. Et lorsque vous allez stimuler un endroit, vous pouvez observer les réactions à un autre endroit. Autrement dit, on peut stimuler au niveau du cortex avec une action sous-corticale. Et selon qu'il s'agit d'un trouble, d'une dépression dans le cadre d'un trouble bipolaire type 1 ou type 2, ou qu'il s'agisse d'une dépression unipolaire, on ne va pas stimuler la même partie du cerveau. D'accord ? Alors, les avantages, c'est que c'est non-invasif, c'est indolore, c'est en ambulatoire, il n'y a pas d'anesthésie, les patients peuvent venir, ça dure 15 minutes ou 20 minutes, les gens peuvent rentrer chez eux, voilà. Le problème, c'est les effets secondaires, c'est que c'est un champ magnétique quand même, hein, localisé. Ça ne va pas partout, c'est localisé. Et cela, ça peut entraîner parfois des céphalées, mais ça ne dure pas très longtemps. Ça peut, je ne sais pas si vous avez déjà passé une IRM cérébrale, mais la machine, ça fait du bruit, quoi. Et ben, y a la même chose avec la RTMS. On peut, y a des techniques maintenant, on peut diminuer le bruit, ou alors mettre des caisses dans les oreilles. Et on peut aussi avoir parfois des nausées, c'est décrit. Et puis, lorsque, au tout début, on a commencé à en faire, la technique n'était pas très bien connue, il y a des patients qui pouvaient présenter des crises d'épilepsie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Et donc, cette technique n'est pas utilisée chez les patients épileptiques. Alors, c'est contre-indiqué, bien sûr. Et ces contre-indications, c'est quoi ? Ce sont les contre-indications dans le cadre c'est les mêmes contre-indications qu'on fait pour lorsqu'on veut passer une IRM cérébrale, c'est-à-dire avoir un pacemaker, avoir des clips ou des corps métalliques, une hypertension intracrânienne, ou bien sûr, ce que j'ai dit, un traumatisme crânien ou une maladie épileptique. En tous les cas, de principe, les femmes enceintes ne passent pas cet examen. Alors, une autre technique de traitement serait d'aller stimuler d'une manière plus profonde les structures sous-corticales. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est le fait de mettre deux électrodes reliées à un stimulateur. Alors, pour revenir à la stimulation magnétique transcrânienne, c'est ce que je viens de vous dire, la RTMS, c'est une technique en cours d'étude. Hein. Donc, nous avons des protocoles dans le service où justement on va essayer de démontrer est-ce que c'est efficace ou pas efficace dans les dépressions plutôt unipolaires. Et là, on va déposer un protocole de recherche pour étudier la dépression dans le cadre des maladies bipolaires. Et vous comprenez bien que tout ça, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est très structuré, très bien entouré sur le plan éthique. Alors, la stimulation cérébrale profonde, l'idée avant, vous le savez, que chez les patients déprimés, enfin d'une manière globale, mais surtout, il y avait dans les dépressions, mais aussi dans la schizophrénie ou dans les TOC, on faisait ce qu'on appelle un traitement chirurgical. Hein. C'est-à-dire, on enlevait une partie du cerveau, vous pouvez voir ici. Vous pouvez encore voir chez certains patients, parce qu'en France, on a arrêté cette technique en 1975. D'accord. Mais ça, soit c'était par l'opération, soit c'était par la thermocoagulation. En fin de compte, ce sont des patients chez qui les traitements qu'on utilisait n'étaient pas efficaces. Maintenant, c'est fini et on ne le fait plus. Plus personne ne le fait d'ailleurs au niveau international, sauf peut-être encore une équipe aux États-Unis, mais bon. Alors, il y a une équipe américaine associée à une équipe canadienne qui ont tenté de faire cette technique thérapeutique chez les patients déprimés en plaçant les sondes au niveau, à ce niveau-là, vous voyez, c'est-à-dire l'image que je vous ai montrée au niveau sous-cortical en allant un peu plus profondément qu'au niveau du cortex. Donc, c'était des patients sévères, ayant eu plusieurs antidépresseurs, ayant eu du lithium et des séances de sismon et la thérapie cognitivo-comportementale, et que ça n'a pas marché. Regardez bien, voilà les résultats. Alors, l'échelle d'Hamilton, ça permet d'évaluer la dépression. Vous voyez, ce sont des gens qui avaient une dépression sévère. Je voudrais juste attirer votre attention que dans cette étude, il y avait des patients bipolaires de type 2 et que les autres patients étaient des patients unipolaires, donc chez 6 patients. Et qu'est-ce qu'elle nous rapporte ? Vous voyez ici, après 6 mois de traitement, on est passé d'une sévérité qui était de 29, donc c'est les patients les plus sévères, souvent hospitalisés, on passe à 5, c'est-à-dire ce sont des gens qui, pour être déprimés, il faut avoir un score supérieur à 8, quoi, 7-8. Et vous voyez, il y a deux situations, chez deux personnes chez qui ça n'a pas marché. Mais vous avez, chez 4 patients, ce traitement, chez 3, ça a très bien marché, et chez 2, ça n'a pas marché chez un patient moyennement. Autrement dit, cette technique thérapeutique utilisée par cette étude entre à la fois les Canadiens et les Américains montre que probablement, pas chez tous les patients, une fois de plus, mais chez certains patients, on pourrait proposer ce traitement. Alors, voilà une autre étude ce sont des Allemands en 2008 qui ont aussi démontré l'efficacité d'un traitement identique chez les patients déprimés. Et là, vous voyez que globalement, si vous regardez ici, il y a une diminution des symptômes dépressifs. Donc, lorsqu'on regarde l'ensemble de ces données avec des collègues en France, il y a maintenant 2 ans, on s'est dit qu'on pourrait tenter de faire aussi un protocole de recherche dans ce sens, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le protocole STEAM, c'est-à-dire les patients souffrant d'une dépression sévère, mais non bipolaire. Pourquoi ? Parce que dès lors que la stimulation est en place, s'il y a un virage maniaque, on ne pourra pas savoir est-ce que c'est l'effet de traitement qu'on fait ou est-ce que c'est l'effet la maladie bipolaire qui s'exprime. Et donc, dans cette étude, on pense que c'est patients que je vous ai montré dans l'étude Myberg, donc ceux qui n'ont pas répondu, c'est parce que le noyau subgénual où ils ont été stimulés, c'est probablement pas là qu'il faut les stimuler, mais plutôt au niveau d'une autre cible qui est le noyau accumbens. Tout ça, c'est peut-être beaucoup trop technique, mais globalement, l'idée, c'est qu'on pourrait aller stimuler à différents niveau du cerveau pour voir un effet thérapeutique. Enfin, ce sont les patients les plus sévères chez qui on a fait l'ensemble des traitements, mais y compris la sismothérapie, et qui ne peuvent pas, et qui n'ont pas répondu et qui sont résistants à l'ensemble de ces prises en charge, et une fois de plus, qui souffrent réellement d'une dépression depuis plus de 2 ans en continu et qui ne peuvent pas travailler. Alors, l'ensemble de alors j'ai été un peu rapide, on pourra revoir ça au moment des questions, mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, la prise en charge de la maladie dépressive seule ou dans le cadre d'un trouble bipolaire, on a une série de traitements. L'arsenal thérapeutique, vous avez vu, ce n'est pas est important. On a dans un premier temps la psychothérapie, puis les antidépresseurs, puis la stimulation magnétique, puis la sismothérapie, puis la stimulation cérébrale profonde. Enfin, on a une série de choses à proposer aux patients. En tous les cas, il faut éviter, une fois de plus, de proposer ce qu'on appelle ce que j'appelle les faux remèdes. Et ça, une fois de plus, c'est ce que j'ai noté lors de mes consultations. C'est prendre de l'alcool, même s'il s'agit du verre de l'amitié, et ça ira mieux après. Hein, bois un coup, ça ira. Ou alors, il faut prendre un petit verre de café ou des vitamines, et tu verras, tu seras plus déprimé. Fais une cure de sommeil, et tu verras que tu iras mieux. Hein. Va courir un peu, tu verras, tu dormiras mieux. Ou alors, change de vie. Tu n'as qu'à pas changer de ville, change de situation, va vivre à la campagne. La maladie dépressive ne va pas guérir avec ça. Je n'ai rien contre les gens qui vivent à la campagne, mais je voudrais dire que le fait de changer l'endroit ne va pas fondamentalement modifier la pathologie dépressive. Partir en voyage, c'est toujours bien, mais ce n'est pas le traitement de la dépression. Se changer des idées, d'accord, et se soigner par les plantes. Alors là, je le dis et je le répète, à chaque fois qu'un patient me dit qu'il veut se faire soigner par les plantes, je lui dis, aucun problème, vous pouvez y aller. La seule chose, c'est n'arrêtez pas le traitement que je vous ai prescrit, ou alors, si vous ne voulez pas de ce traitement, on l'arrête, vous faites votre traitement par les plantes, et après, on voit. Et le vrai problème dans cette situation, c'est que vous avez compris, le risque d'une dépression, c'est le risque suicidaire. Donc, je ne pense pas que seules les plantes peuvent améliorer une maladie dépressive. Attention de bien distinguer ce qui n'est pas une dépression de ce qui est une dépression. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là pour que Solène Quentin vous parle de la sismothérapie et puis on pourra après répondre à l'ensemble des questions si vous voulez bien.
Bon, on va vous parler de la sismothérapie, donc une technique que certains connaissent bien, puisque le docteur Lévy en a effectivement parlé l'an passé. Donc on va revisiter très rapidement. Hein. Donc cette technique est ancienne, puisqu'elle est inventée par Ugo Serletti en 1938. Donc elle est utilisée dans le traitement des dépressions sévères principalement, et ça consiste en passage d'un courant électrique par l'intermédiaire de 2 électrodes, qu'on pose sur la tête. Et depuis qu'elle se pratique sous anesthésie générale brève, son utilisation en est beaucoup plus sûre et beaucoup moins controversée. Et d'autant plus que maintenant, on a des preuves, hein, scientifiques, comme quoi l'efficacité est de l'ordre de 75 à 95% des cas. Donc, l'indication dans la dépression, en fait, c'est la dépression majeure, donc bipolaire ou unipolaire. On va l'utiliser en première intention d'emblée, s'il y a la nécessité d'un traitement rapide et efficace, si les autres traitements antidépresseurs sont plus risqués, ou s'il y a un antécédent de mauvaise réponse aux psychotropes, donc aux antidépresseurs, ou une bonne réponse à l'ECT. Après, en seconde intention, s'il y a une inefficacité thérapeutique. Je vous rappelle que dans 40% des cas, les patients vont résister aux antidépresseurs, alors que dans 10% des cas, ils résistent aux ECT. Donc c'est une alternative très intéressante. Après, on l'utilisera s'il y a des effets secondaires au traitement psychotrope et s'il y a une aggravation clinique malgré le traitement antidépresseur. Alors concernant les contre-indications, c'est facile, il n'y en a qu'une seule absolue. Donc c'est l'hypertension intracrânienne. Je m'explique. C'est-à-dire en fait une variation de la tension dans le cerveau qui peut être due soit à une tumeur, soit à un saignement dans la tête. C'est la seule. Tout le reste, c'est relatif. En fait, on va peser le pour et le contre. On peut très bien en faire aux patients cardiaques, aux patients diabétiques. Donc on fait avantages et inconvénients et on mesure les risques. Alors la mortalité, elle est très très faible. Il s'agit de l'ordre d'un décès sur 10 000. En fait, c'est l'équivalent du risque de décès qu'on rencontre sur le plan anesthésique lors d'une chirurgie mineure, une petite chirurgie en ambulatoire. Alors la morbidité, qu'est-ce que la morbidité? C'est-à-dire les effets indésirables. Et là, on se rend compte que les effets indésirables sont plus faibles qu'avec les antidépresseurs. Il s'agit de l'ordre d'une séance sur 1300 à 1400. Alors, concernant les effets indésirables, immédiats, ils sont rares. Hein. Cardiovasculaires ou crises prolongées, ils sont très très rares. Après, en salle de réveil, quand le patient donc, n'a plus l'effet d'anesthésie, ça sera la même chose que pour les anesthésies, c'est-à-dire qu'il va avoir mal à la tête, peut-être avoir envie de vomir, ou des douleurs musculaires. Et dans ces cas-là, ça peut être prévenu par un traitement, où on peut adapter les séances de CT par la suite. Alors, les effets les plus nombreux, en fait, c'est ce qu'on appelle les effets cognitifs, c'est-à-dire sur la conscience. Alors, dans l'immédiat, juste après le traitement ECT, le patient peut être confus. Alors, confus, c'est-à-dire il est un peu perdu, un petit peu agité, hein, il ne sait plus trop où il est. Hein. Bon, c'est toujours très transitoire, ça dure maximum 30 minutes. Bon, si ça dure 60 minutes, ce n'est pas normal, mais c'est très très rare. Après, ce qui nous gêne peut-être un peu plus, c'est ce qu'on appelle les troubles amnésiques. Alors, ça, c'est un effet secondaire, indésirable, qui arrive environ dans les semaines après le traitement par ECT. Alors, les troubles amnésiques, c'est des troubles sur la mémoire. Vous avez un patient, il va vous dire qu'il y a des choses qu'il a oubliées. Hein. Il va s'en plaindre un petit peu. Donc, on lui explique que ça va se résoudre en quelques jours, quelques semaines, bon, des fois pour certains, en quelques mois. Bon, ça dépend après de la façon dont on pratique l'ECT. On va en parler brièvement un peu plus tard. Alors après, pour les effets psychiatriques, bon, on peut avoir un virage maniaque, mais là, ça n'empêchera pas de continuer la pratique des ECT, car l'ECT est un puissant régulateur de l'humeur. Après, bon, y a les réactions subjectives négatives, ça dépend de l'expérience de chacun. Alors, fait étonnant, l'ECT, on peut le pratiquer chez les femmes enceintes. D'autant plus que sur ce terrain, mettre des médicaments, c'est très risqué parce qu'on ne sait pas l'effet que ça peut avoir sur le fœtus. Après, on peut le faire chez les enfants. Bon, il y a de très rares études, hein, et c'est très très rare, il faut l'avis de deux psychiatres. Après, population de prédilection, ce sont les sujets âgés. C'est même une méthode de référence, car on sait que ces sujets sont souvent polymédiqués, ils ont un traitement lourd, et surtout, ils ont des antécédents très nombreux, que ce soit sur le plan cardiaque, diabète, etc. Donc c'est une méthode de prédilection, et c'est efficace. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va mettre en place ce traitement? Comment on va faire? On va donc faire un examen psychiatrique et de la maladie très exhaustive, On va évaluer les facteurs de risque, surtout pour l'anesthésie. On va aussi faire un bilan pré-anesthésique, donc notamment avec un scanner cérébral pour éliminer une tumeur cérébrale qui pourrait augmenter cette tension dans la tête. Après, ce qui est important, c'est d'obtenir le consentement du patient. Et là, il va falloir lui donner une information qui soit adaptée, accessible, hein, pour qu'il donne un consentement éclairé et un consentement qu'il va signer. Bon, dans des cas, des fois, le consentement, il est compliqué à obtenir. Donc, on va s'en référer à la famille ou, sinon pas de famille, une personne de confiance. Et quand la personne ira mieux et qu'elle sera apte à donner son consentement, dans ces cas-là, on va pouvoir lui faire signer ce consentement. Alors, après, pour les moyens. Donc, il nous faudra du personnel pour pratiquer le CT, donc un psychiatre qui a la responsabilité générale du traitement, un anesthésiste qui a la responsabilité de l'anesthésie, une infirmière en réanimation et un assistant en infirmier, le plus souvent en psychiatrie. Après, le lieu du traitement, c'est un lieu qui est bien dissocié du service. Hein, c'est une salle où le patient est dans la tranquillité, hein, et surtout où ça peut se pratiquer en toute sécurité. À Poitiers, on le fait en salle de réveil. Après, l'équipement au minimum, donc c'est l'appareil à ECT, un scope pour prendre toutes les constantes, un électroencéphalogramme, parce que c'est ce qui va nous permettre de quantifier et de repérer la crise, hein, de savoir quelle durée elle doit avoir, ce qu'on va voir un peu plus tard, et tout le matériel pour assurer la sécurité du patient, oxygène, etc. Alors, les précautions à prendre. La veille de l'électroconvulsivothérapie, on va de manière générale arrêter les psychotropes, notamment tous ceux qui peuvent modifier le seuil épileptogène. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le seuil ? C'est-à-dire, le seuil du patient, c'est à la plus petite quantité de charge électrique qu'on va lui donner, c'est quand il va avoir une crise convulsive, qu'il va avoir une crise d'épilepsie. Hein, ça correspond à ça, le seuil. Alors après, pour initier le CT, il va falloir être à jeun depuis au moins 6 heures. Hein, donc, vessie vide, on pose une voie veineuse, on prend toutes les précautions et surtout, on protège les dents. Parce que il y a un effet secondaire aussi que je ne vous ai pas cité, c'est les fractures dentaires. Et ça arrive de temps en temps, malgré les précautions, mais c'est rare. Alors, lors de l'ECT, l'anesthésie, donc ça, on ne va pas détailler, mais bon, on a un hypnotique pour oublier, hein, pour ne pas se rappeler et ne pas avoir de douleur, et un myorelaxant qui permettra d'éviter les secousses musculaires trop importantes liées à la crise et qui protégera de fractures, de déchirures musculaires. Donc du coup, la pratique est totalement sûre. Après l'appareil à ECT, bien entendu, et ensuite l'emplacement des électrodes. Elle se fait de diverses manières et ça a son importance. Alors le plus souvent, on le place de chaque côté au niveau des tempes, donc bilatéral temporal, et là cette technique elle est efficace. Le problème, c'est qu'elle provoque en effet secondaire ces fameux troubles de mémoire. Alors, comme alternative, il y a l'unilatéral. Donc l'unilatéral, d'un seul côté, du côté non dominant, donc pour les droitiers à gauche, hein, et inversement. Alors, moins de troubles de la mémoire, mais moins efficace. Donc une nouvelle alternative a vu le jour il y a peu de temps, c'est au niveau frontal, hein, de chaque côté sur le front. Et là, on s'est aperçu que c'était aussi efficace que de chaque côté sur les tempes et que c'était aussi efficace. Mais il faudrait d'autres études pour le confirmer. Alors, le dosage du stimulus, on ne va pas rentrer dans les détails. On a deux méthodes. Hein, je ne vais pas vous les expliquer ce soir. Mais en tout cas, il s'agira d'obtenir une crise d'épilepsie qui durera au moins 20 secondes. C'est un critère qui est très important pour nous. Alors, la durée du traitement. On a d'abord ce qu'on appelle une phase d'attaque, c'est-à-dire qu'on va administrer le traitement deux fois par semaine, pour certains trois fois, mais bon, nous on le fait deux fois car c'est aussi efficace. Après, bien sûr, on arrêtera en fonction de l'efficacité. Si ça marche, que les signes de la dépression ont quasi disparu, qu'il y a une nette amélioration, on va l'arrêter. Ou s'il y a trop d'effets secondaires, on l'arrêtera aussi. En général, il faut 6 à 12 séances. Après, bien sûr, on évalue les conséquences toutes les deux séances. Hein, on fait un peu le point avec le patient, notamment sur les effets secondaires. Après, quand les séances sont terminées, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, les conseils sont qu'il ne faut pas laisser le patient sans traitement. Hein. Il faudra continuer un traitement pendant au moins 6 mois. Soit ça pourra être de l'ECT, ou soit un antidépresseur, thymorégulateur. Voilà. Alors, quels seraient les critères pour continuer les ECT, en sachant que les séances seront beaucoup plus espacées ? Eh bien, ça sera des antécédents d'épisodes récurrents qui ont bien répondu aux ECT, ou encore une inefficacité des médicaments, ou la préférence du patient. Alors, on va terminer par l'efficacité. Alors donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, dans la dépression, l'efficacité, elle est incontestée. Dans 75 à 95% des cas. Et la littérature est nombreuse. Regardez, par exemple, c'est une analyse qui regroupe plusieurs études. Tout le nombre de patients étudiés, 256, 1144, 1408. On a retrouvé ces résultats-là sur tous ces patients. Ce qui est vraiment très, très encourageant. Alors, parlons un peu du cas de la dépression résistante, c'est-à-dire une dépression où on a essayé de traiter par au moins 2 antidépresseurs à une dose et à une durée optimale, voire même pour certains, 2 antidépresseurs à la fois. Là, on propose donc les ECT. Bon, la réponse est un peu plus faible, mais c'est quand même 50% des cas, hein. En sachant qu'on a trouvé que la réponse à l'ECT en seconde intention était donc inférieure que quand elle était prescrite en première intention. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a un abus de langage, car un certain nombre de patients qu'on étiquette résistants sont en fait des patients qui sont soit sous-traités ou soit des patients qui sont non observants dans le traitement. Et on s'est aperçu par une étude qui est assez ancienne mais très intéressante que s'il y avait des patients qui n'avaient pas répondu aux ECT, si on leur remet les antidépresseurs auxquels ils n'avaient pas répondu auparavant, ou le thymorégulateur comme le lithium, ils y répondent dans 80 à 100% des cas. Alors, le cas des sujets âgés, l'ECT est aussi efficace que sûr chez les adultes plus jeunes, confirmé par ces études sur un très grand nombre de patients. C'est même plus efficace que les antidépresseurs, donc confirmé aussi par cette étude-là. Alors maintenant, le point intéressant. ECT, RTMS, donc stimulation magnétique transcrânienne, est-ce que donc la RTMS pourrait être une alternative ? Les résultats sont très très encourageants, mais mitigés. Donc on va voir pourquoi. Pourquoi ? Bon, là c'est encourageant parce qu'on voit qu'il y a une efficacité similaire d'après ces deux études portant respectivement sur 25 et 40 patients. Des études contrôlées, hein, donc avec un groupe de patients sous ECT et un groupe sous stimulation magnétique. Bon, il y a d'autres études qui retrouvent le contraire. Que l'ECT, c'est plus efficace que la stimulation magnétique, surtout pour des dépressions avec des éléments délirants, donc des dépressions très sévères. Autre résultat encourageant, moins de troubles sur la mémoire, voire même, pour certains, une amélioration de la mémoire, ce qui est plutôt prometteur. Et aussi, ce qui est prometteur, un taux de rechute similaire sur 6 mois. Mais on ne peut pas conclure, cependant, pourquoi ? Remarquez, là, le faible nombre de patients, 6 patients dans l'étude, 13, 40, c'est pas assez pour confirmer. Donc il faut faire d'autres études sur un nombre plus important de patients. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette méthode de stimulation ? C'est que c'est une méthode qui a fait preuve de sa sûreté et de son efficacité grâce à l'anesthésie, très intéressante chez les sujets âgés, pour les dépressions sévères, et donc résistante au traitement antidépresseur. Une seule contre-indication, peu d'effets indésirables. Le seul problème qui est transitoire, ce sont les troubles de mémoire. Et ECT ou stimulation magnétique, ça, c'est l'avenir qui nous le dira par d'autres études. Je vous remercie.
Donc voilà. Alors, on vous a présenté très rapidement l'ensemble des méthodes thérapeutiques qu'on a actuellement à Poitiers et qu'on peut vous proposer. Est-ce que on peut peut-être passer à des séances questions ? Une fois de plus, je vous demande que ces questions ne soient pas personnelles parce que je ne pourrais pas répondre directement.
Est-ce qu'on prend des questions une après l'autre ou est-ce qu'on en prend deux ou trois et en groupe ?
Une après l'autre, peut-être.
Qui veut commencer ? Est-ce qu'il y a des questions ou sur les ECT, sur les RTMS, sur la BIP ?
Oui, moi j'ai une question, parce que vous avez parlé plusieurs fois des images au niveau du crâne. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de savoir quelles sont les zones qui ne répondent pas au niveau du cerveau dans le cadre d'un trouble bipolaire ?
Alors, merci pour cette question qui est une question difficile. Hein, parce que jusqu'à maintenant, vous savez, globalement, quand on a un patient, on faisait une imagerie cérébrale, soit un scanner, soit une IRM cérébrale, pour dire qu'il n'y a pas de tumeur ou qu'il n'y a pas une cause neurologique, organique. Maintenant, mais encore, ça demande bien sûr à être confirmé, on peut trouver, selon les techniques très particulières, que le cerveau d'un patient souffrant d'une dépression ou d'un trouble bipolaire, il y a quelques anomalies. Ça ne veut pas dire que ces anomalies, ce sont des tumeurs, hein, pas du tout. Hein. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir, dans les années à venir, des signes neurologiques permettant de dire c'est plutôt telle pathologie psychiatrique que telle autre. Et dans le cadre de la bipolarité, on a par exemple au niveau sous-cortical c'est surtout les Américains, ils ont démontré qu'il y a des spécificités au niveau sous-cortical, sans détailler. Et il y a une équipe parisienne qui a retrouvé quelques signes neurologiques au niveau du cerveau du patient, centré particulièrement autour de l'amygdale et tout ce qu'il y a autour. Mais une fois de plus, au jour d'aujourd'hui, quand on voit un patient, on ne peut pas dire que ce patient, on ne l'utilise pas au quotidien pour un diagnostic psychiatrique. Hein, vous avez compris, le diagnostic psychiatrique est avant tout le fait de voir un patient et faire une évaluation, clinique. Et pas du tout radiologique. Oui. D'autres.
On vous apporte le micro parce qu'on enregistre, donc on a besoin d'entendre votre voix dans la machine. Qui était la première ?
Y aurait-il des maisons de repos au moment des crises ?
Qu'est-ce que ça veut dire, maison de repos ?
Disons, éloignées des proches.
Ah oui. En gros, si je comprends bien votre question, c'est quelle doit être l'attitude des proches lors d'une pathologie dépressive ou d'une décompensation maniaque, quoi.
Ouais.
Oui. Alors, vous savez, comme je le dis souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a l'attitude de chacun. Et globalement, au moment de la crise, c'est-à-dire si quelqu'un est suicidaire ou quelqu'un est en agité, en accès maniaque, je crois que la meilleure des choses est une hospitalisation. Alors, la question de fond, c'est parfois les patients ne veulent pas être hospitalisés et on est emmené à faire une hospitalisation sous contrainte. Je crois que là, le fait de faire une hospitalisation sous contrainte, qui est souvent difficile pour la famille, parce qu'on demande à quelqu'un de la famille de signer comme quoi le patient n'a pas la conscience d'être si malade alors qu'il a besoin d'être hospitalisé. Alors souvent, c'est difficile pour la famille. Hein. Ça, je le sais, on le vit au quotidien. Et je pense que c'est parfois nécessaire de le faire, et il faut le faire, pour que le corps médical puisse s'occuper de ce patient. Parce que vous savez qu'on on ne peut pas décider de nous-mêmes de mettre quelqu'un plutôt en hospitalisation ou pas. Si le patient ne veut pas être hospitalisé, on ne peut pas le faire. Sauf si la famille ou la justice ou la société nous donne les moyens, quoi. Alors, si l'intensité de la dépression ou la manie est moins sévère, une fois de plus, il y a le fait d'être informé. C'est-à-dire, je pense que ce que l'ARCOS fait, c'est très bien, le fait de voir que les patients puissent se voir entre eux. Ça, c'est très bien, parce que ce que je dis souvent, c'est quand Madame X va entendre que Monsieur Y dit que sa femme souffre de la même chose qu'elle et que le mari de Madame X l'entend, c'est pas la même chose que quand Madame X parle directement à son mari. C'est différent, c'est l'humain, c'est comme ça. C'est-à-dire que et le fait de participer à ces réunions d'information, ça permet justement de savoir un peu comment se comporter à ce moment-là. En tous les cas, il ne faut pas être agressif, ça c'est évident, avec la personne déprimée ou agitée. En tous les cas, il ne faut pas sous-estimer la dépression. Il ne faut pas penser tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire du coup, on va boire un coup, ça ira mieux, etc. Lorsqu'il s'agit d'une dépression, on est bien d'accord, et pas juste... Et la dépression, je vous ai dit, c'est plusieurs symptômes, c'est pas juste un symptôme. Et voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, mais c'est vrai que le rôle de la famille est un rôle très important. Et comme je vous ai dit une fois de plus, je pense que ces séances d'information ou de psychoéducation pour le patient, ça aide souvent le patient et le corps médical de prendre en charge les patients. Je me rappelle d'une patiente, le fait d'avoir passé du temps avec la famille, expliquer la pathologie, eh bien, dès lors qu'elle a commencé à ne plus dormir, c'est-à-dire c'est les premiers symptômes, c'est ça, hein, on commence à moins bien dormir, etc., eh bien là, il y a eu une consultation, et puis on a pu se rendre compte que, qu'en fin de compte, la maladie s'aggravait. Elle prenait bien son traitement, mais la maladie s'aggravait. Donc, on a dû modifier le traitement. Oui, il y avait une autre question, madame.
C'est là. Pardon. Là-bas. Je ne vois pas.
Il y a une question. J'aurais voulu savoir les effets secondaires et les contre-indications du lithium.
Oui. Alors, ça, c'est une très bonne question. Vous savez, le lithium, c'est un produit qui date d'il y a très très longtemps. Et vous savez, la découverte de lithium, c'est extraordinaire parce que, en fin de compte, pas sous forme de médicaments, mais je veux dire sous forme de sel de lithium, ça existait auparavant. Et dans une ville aux États-Unis, il y a un chercheur, c'était pas un psychiatre, qui remarquait que ceux qui vivaient dans cette ville faisaient moins de dépression et qui se portaient mieux en fin de compte. Et ils ont regardé les différents facteurs qui pouvaient expliquer ça, et en fin de compte, c'était dans l'eau, il y avait un peu plus de sel de lithium que dans le reste. Et à partir de là, on a eu l'idée de concentrer, de regarder les choses et d'en faire ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, le lithium, c'est un traitement très efficace chez les patients bipolaires, mais des dépressions sévères, sauf que tous les bipolaires de type 1 ne répondent pas à ce traitement-là. Alors que c'est très efficace dans cette forme, tout le monde ne répond pas. Il faut le savoir. Et qu'il faut mieux parfois laisser le lithium pour prendre d'autres thymorégulateurs. Premièrement. Et la deuxième chose, c'est que le lithium, bien sûr, les contre-indications sont multiples parce que, vous savez, au début, les molécules, quand on l'utilisait, ces molécules agissent sur différentes voies, sur différents neuromédiateurs, si vous voulez, différents endroits dans le cerveau, et que mais aussi agissent sur le cœur, sur le poumon, enfin sur les reins. Donc ça veut dire que vous savez, quand vous prenez un médicament, ça agit sur l'ensemble du corps, quoi. Et le lithium, lorsque c'est bien supporté, habituellement, les effets secondaires sont acceptables. Les patients que je vois, enfin, chez qui je donne ce traitement, il faut juste vérifier que la lithémie, c'est-à-dire la concentration plasmatique, est bien dans la fourchette thérapeutique, ça ne dépasse pas, parce qu'à ce moment-là, ça donne des nausées, vomissements, céphalées. Et le vrai danger aussi, c'est que quand les patients font des surdoses de lithium, ça peut être grave. Donc, globalement, il faut le prescrire chez des patients qui sont observants, qui bien expliquer les choses auparavant. Et ceux qui ont une insuffisance rénale ou hépatique ne peuvent pas bénéficier de ce traitement. J'espère que j'ai répondu à la question. Il y avait quelqu'un au fond, voilà.
Génétique.
Ah, la question de la génétique, c'est une question très très intéressante. Si vous voulez, il y a d'abord merci pour cette question, parce que ça me permet aussi de parler de ce qu'on a essayé de développer à Poitiers. C'est que il y a quelques années, je me suis dit, quand vous avez une infection, hein, vous allez voir votre médecin, on fait un prélèvement de la gorge. Quand c'est grave, et on donne des antibiotiques, et après on fait l'antibiogramme et on adapte le traitement antibiotique à l'antibiogramme. Ça vous parle? Non? Oui. Eh bien, et si on faisait la même chose en psychiatrie? C'est-à-dire, les patients sont déprimés, on leur prescrit un traitement, on fait un prélèvement sanguin, on va regarder l'aspect génétique. Et on adapte le traitement. Pourquoi? Parce qu'on va coller des effets secondaires sans avoir des effets bénéfiques. Elle est géniale, cette idée. Eh bien, il y a quelques années, personne ne croyait ça. Et l'année dernière, on a pu déposer un protocole et on a obtenu ce protocole. C'est-à-dire que les collègues au niveau national ont trouvé que la question posée comme ça était une question intéressante. Parce que ça permettrait, ce qu'on appelle la pharmacogénétique, ça permettrait de diminuer les effets secondaires et adapter un traitement à un profil génétique. Alors, c'est très ambitieux. On va voir ce que ça va donner. On n'a pas encore commencé. Mais pour aller un peu dans ce sens-là et encore plus loin sur votre question, c'est que quand on regarde les patients qui se suicident, par exemple, ou font des tentatives de suicide dans une famille, eh bien, quand on regarde dans la famille, il y a plus de tentatives de suicide dans certaines familles que dans d'autres. Il y a plus de pathologies psychiatriques dans certaines familles que dans d'autres. Alors, parler de la génétique, ça veut dire tout de suite... ah oui, donc ça veut dire que je vais transmettre les choses à mes enfants, quoi. Et souvent, quand je vois les familles, je leur dis, en effet, vous avez transmis votre beauté, votre intelligence, votre savoir-faire, mais aussi tout le reste. Et que ce n'est pas forcément de votre faute si vous avez tel profil génétique que tel autre. Et je pense qu'il n'y a pas à se culpabiliser d'avoir des gènes de telle manière ou telle autre. Mais en tous les cas, il est évident que chez certaines familles, il y a plus de pathologies psychiatriques que d'autres. Et alors, à partir encore de cette idée-là, avec les collègues de Paris, on s'est dit, on va regarder, alors je vais le faire comme ça, je pense que les patients comprennent bien quand je leur explique comme ça. Et si c'est identique, ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie. Si c'est différent, on va regarder là où c'est différent. Bon, là, c'est en cours. Si réellement il y a quelque chose, à ce moment-là, on doit pouvoir trouver. Mais une fois de plus, tout ne se termine pas à la question génétique, tout ne se termine pas à la question des médicaments, tout ne se termine pas à la question de l'imagerie cérébrale. Je crois et je suis convaincu que ce qui est le plus important, c'est le lien qu'on peut mettre en place avec un patient. Un lien. Et ce lien, c'est important. Et le fait que c'est un ensemble de choses qui vont permettre à ce patient de s'en sortir. Il ne faut pas être réducteur, mais quand on fait de la recherche, il faut savoir répondre à une question précise. Mais quand on prend en charge des patients, ce n'est pas juste la question qui nous intéresse, c'est la globalité, bien sûr, qui nous intéresse. Alors ça, c'est important enfin, de le dire, de le répéter, parce que là, vous voyez souvent en consultation, les patients ont des questions précises. Et souvent, je suis étonné par la masse de connaissances que les patients ont sur leur pathologie, que ce soit une pathologie dépressive ou autre. Et maintenant, d'ailleurs, il y a certains patients qui arrivent avec, en m'apportant tel dernier article qui vient de sortir sur telle question, parce que j'ai pas le temps de voir tout. Et c'est vrai que là, de coup, ça change une fois de plus. On se met le médecin, le patient et la famille contre la maladie et pas le malade. Ça, je le répète encore. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sur cette question génétique, en effet, il y a une participation génétique, mais comment le déterminer, en tous les cas, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et deuxièmement, probablement que ce profil génétique, dans les années à venir, on doit arriver à pouvoir adapter nos traitements en psychiatrie à ce profil pour diminuer les effets secondaires des médicaments que vous savez, enfin les patients qui prennent les médicaments, ils le savent. Pardon. Allez-y.
Pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, que ce soit héréditaire, enfin génétique ou éducationnel, on s'accordera à dire qu'il y a des familles qui sont plus sujettes à ce type de maladie. Doit-on à ce moment-là imaginer, pour revenir un peu à la thérapeutique, une prévention, pas seulement en termes de médicaments, mais à ce moment-là peut-être plus sur la psychothérapie, pour aider les proches ou les enfants et peut-être un petit peu prévenir ces maladies, travailler un peu en amont.
Oui. Alors, tout à fait. Vous posez des questions excellentes ce soir. Parce que, si vous voulez, globalement, répondre à la question qui a besoin d'un traitement et qui n'en a pas, c'est de répondre à la question qu'est-ce que c'est que la normalité ? Qu'est-ce que c'est que la pathologie et la normalité ? Alors, moi, en tant que psychiatre, je dis souvent à ceux qui disent, à certains patients qui disent « Oui, je ne veux pas voir un psychiatre parce que je ne suis pas fou », je leur dis « La folie n'existe pas, il n'y a que des gens qui ont des soucis dans leur tête ». Et je suis spécialiste des soucis dans la tête des gens. C'est ça ma spécialité. Et donc, je considère que les gens sont malades à partir du moment où il y a une souffrance et que ces souffrances ne sont plus contrôlables par le sujet, ou par l'individu ou l'entourage. Voilà. Alors, pour venir à votre question, vous voyez, à partir de quand il faut intervenir chez les frères et sœurs d'un patient bipolaire et schizophrène ou déprimé? Et la question n'est pas si clairement identifiée. Aux États-Unis, ils ont pris la partie de dire un patient schizophrène, les frères et sœurs, on surveille et dès qu'il y a moindre de choses, on met un traitement. Et on évite la première crise. En France, on n'en est pas là. En France, on dit chez les frères et sœurs d'un patient schizophrène, il faut une surveillance, c'est-à-dire... Si ça ne va pas, il faut qu'ils consultent. Il ne faut pas attendre la crise qui va les emmener à une hospitalisation, mais plutôt, en effet, consulter avant. Mais on n'est pas du tout dans l'idée de mettre un traitement quelle que soit la forme, hein, même, que ce soit la psychothérapie ou que ce soit le traitement médicamenteux. En tous les cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, dès lors qu'il y a une souffrance, à ce moment-là, c'est sûr que cela nécessite une prise en charge. Et entendez dans ma bouche, la prise en charge, c'est la psychothérapie, dans un premier temps, et un traitement médicamenteux si nécessaire, qui souvent il faut associer. Mais il y avait une question. Oui, madame.
Est-ce que vous pouvez nous parler particulièrement des phases maniaques ?
De quoi exactement ?
Mais comment se caractérisent ces phases maniaques ? Comment peut-on les repérer par rapport à quelqu'un qui est simplement euphorique, gay ou de façon, on va dire, normalisée, par rapport à quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires ? Parce que je pense que c'est plus facilement repérable. Ouais. Quelqu'un qui a une phase apathique, hein, c'est, je pense, plus facilement repérable que quelqu'un qui a une phase maniaque, euphorique. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Bien sûr. Vous avez raison. J'aurais dû mettre dans les diapos quelque chose sur l'accès maniaque. Sauf que quand je me suis dit Argos, je me pensais que les patients qui vont venir, c'est la majorité des patients bipolaires et qui connaissent parfaitement la manie, l'hypomanie. Oui, voilà, tout à fait. Mais vous avez raison de parler de cet aspect-là. Parce que, alors vous savez, la manie telle qu'on la connaît, l'accès maniaque, pardon, tel qu'on la connaît dans la littérature, aujourd'hui, c'est beaucoup moins. C'est quoi ? Alors, pour essayer de vous faire imaginer les choses, et je m'excuse auparavant auprès des patients, c'est juste ce que je dis à mes étudiants pour qu'ils arrivent à s'imaginer. Quelqu'un qui est maniaque, c'est en gros, ça ressemble à comme si une soirée où on a bien bu, on est gay, on n'a pas de limite, on a une soirée de fête, quoi. Les choses vont très vite dans la tête, alors qu'on est un peu phobique, on peut parler facilement avec les gens. Ça peut aller parfois jusqu'à se déshabiller en public. Ça peut aller parfois d'aller, par exemple, acheter ce qu'on appelle des achats inconsidérés, c'est-à-dire alors qu'on gagne, je ne sais pas moi, 2000 euros ou 1000 euros par mois, on peut aller acheter une Mercedes en faisant un chèque. Et d'ailleurs, souvent, ces patients-là, on peut mettre ce qu'on appelle sous garde de justice, c'est-à-dire que la justice entend qu'ils sont malades, et souvent, ces chèques, quand ce ne sont pas des denrées périssables, c'est-à-dire par exemple quand ils n'ont pas été achetés 2000 pains, ça on ne peut rien faire, mais si ils ont acheté une voiture, on peut rendre la voiture et récupérer le chèque, par exemple. Hein. Si je vous dis ça, la question des baguettes, c'est parce que c'est arrivé chez un patient, on a essayé et en fin de compte, c'était pas possible, ça datait depuis de plus de 10 jours et c'était plus possible de faire quoi que ce soit. Et donc, globalement, pour vous dire que ce sont des patients qui sont hautes. Or, ces patients-là, on en voit, mais pas tant que ça. Ce qu'on voit, ce sont des patients, c'est ce qu'on appelle la maladie décapitée par le traitement. C'est-à-dire, avec les traitements actuels qu'on donne aux patients, et à un moment donné, les patients ne vont pas monter aussi haut qu'avant, mais ça monte, mais ce n'est pas les mêmes formes, ce n'est pas les mêmes symptomatologies, quoi. Et c'est ce qu'on appelle les pathologies mixtes. C'est-à-dire, il y a des patients qui peuvent avoir 3 ou 4 symptômes parmi ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la grandiosité, l'accélération des idées, le fait de beaucoup parler. Et puis, en même temps, ils peuvent avoir quelques symptômes dépressifs, c'est-à-dire ils vont pleurer, ils ne vont pas dormir. Et ces variations-là, ça peut être très rapide dans la journée. Alors, ça aussi, ça existe. Faites très attention. Ce que je vous décris, ce sont des maladies. Et souvent, quand je fais un cours à la faculté de médecine, vous connaissez le syndrome de l'étudiant en médecine, c'est qu'en sortant de cours, il se trouve toutes les maladies possibles et imaginables. Il ne faut pas, retenez bien une chose, ce qu'on décrit, c'est une maladie, et ce n'est pas parce que vous avez peut-être un ou deux symptômes que vous, vous êtes malade. Hein? Ce n'est pas parce que, c'est pas parce que vous, l'hiver, vous êtes par quelques jours en hiver, vous n'êtes pas bien, que vous avez une dépression saisonnière. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes de couple pendant, 2 mois et que vous ne dormez pas bien, que vous êtes forcément déprimé. Vous voyez, enfin, il faut bien retenir l'ensemble de ce que je vous ai dit et pas seulement que quelques symptômes. Mais globalement, l'accès maniaque, c'est des gens qui dorment peu et qui n'ont pas besoin de dormir, mais qui vont se fatiguer. Dans leur tête, ça va très vite, ils parlent beaucoup et ils ne sont pas la rentabilité de ce qu'ils font, c'est nul. Et ce sont souvent des gens agités qui doivent bouger, etc. Alors que la dépression, c'est complètement l'inverse. Oui, madame.
Vous avez évoqué les états mixtes. Je voulais savoir, au niveau thérapeutique, est-ce que le lithium est suffisant? Comment on peut traiter ce genre d'état, sachant que ça dure quelques jours, quelques heures?
Alors, dans les formes, ces formes cliniques, ce sont des formes cliniques frontières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manie pure ou de dépression pure. Alors, vous savez, dans ces formes-là, souvent, il faut le lithium peut marcher, mais pas chez tout le monde. Les autres antipsychotiques peuvent marcher, mais pas chez tout le monde. Et il n'y a pas de traitement miracle. Il faut essayer de trouver un traitement adapté qui comprend un thymorégulateur et, quand ça ne va pas, un antidépresseur sérotoninergique pur. Et en fin de compte, tout le problème, c'est de trouver le juste milieu, et ce n'est pas aussi facile que ça. Mais ceci dit, un traitement thymorégulateur est nécessaire au long cours. Et ne me posez pas la question combien de temps, parce que souvent les patients qui me demandent quand est-ce que je peux arrêter mon traitement, je leur dis tout de suite. Et puis vous allez rechuter, et puis on va voir. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Combien de temps il faut prendre un traitement pour un trouble bipolaire? Au jour d'aujourd'hui, les études n'ont pas réellement démontré le temps nécessaire. On dit pour une durée donnée. La dépression, quand c'est la première fois, on sait que c'est 6 mois de traitement. Mais quand c'est la deuxième fois ou la troisième fois, bon, la durée... Et puis, il y a une chose que vous le savez mieux que moi, mais quand j'en parle avec mes collègues, ça dépend, il y en a qui me croient, d'autres non, c'est que l'observance de traitement n'est pas si bonne que ça. Sur des études de long terme, c'est-à-dire sur 5 ans ou sur 10 ans de suivi, on démontre que globalement, les patients arrêtent leur traitement au bout de 6 à 8 mois. C'est des bipolaires. Enfin, quelque chose qui est un peu, vous connaissez bien, les femmes connaissent bien, il y a une étude qui a été réalisée chez les femmes prenant la pilule. Eh bien, globalement, il y a entre 1 à 5 jours dans le mois où elles oublient. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que l'observance n'est pas seulement, je pense que c'est pas, quand un patient arrête son traitement, c'est pas, il fait pas exprès de l'arrêter. C'est parce que à ce moment-là, il se sent équilibré, il se sent bien, et le fait d'arrêter va entraîner la rechute. Et je pense que c'est là où l'Argos ou des associations de patients ont un rôle à jouer, c'est justement dans le travail, dans le fait de rappeler que un traitement ne doit pas s'arrêter brutalement, en diminuant progressivement, en accord avec son médecin et pas en automédication, entre guillemets, quoi. Et voilà. Et pourquoi ? Parce que plus on va arrêter de médicaments et reprendre de nouveau et arrêter de médicaments, plus on va avoir des formes mixtes. Vous voyez, des formes où c'est plus difficile à diagnostiquer, à traiter, quoi. Bon. Peut-être que là, on a fini. Oui.
Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de conclure ? Oui, allez, une rapide. Excusez.
Une personne bipolaire qui a envie de maternité.
Ah. Question.
On groupe les questions et vous enchaînerez et je conclurai ensuite.
C'était au niveau du déclenchement de la maladie bipolaire. Il y a un aspect apparemment biologique certain. Oui. Est-ce qu'un aspect environnemental, type problème du couple, problème de travail, etc., peut à lui seul déclencher, faire détonateur.
D'accord. Et le monsieur là-bas, parce que comme ça, on aura
le package.
Oui, on a vu que ECT et RTMS n'étaient pas efficaces pour les bipolaires de type 1. Quel est le traitement qui se rapproche le plus pour le traitement justement de ces bipolaires de type 1 ?
D'accord.
Voilà l'objet de la question.
Alors, je commençais par vous. Et c'est que non, l'ECT est efficace pour la dépression, mais aussi pour la manie. D'accord ? Donc, les troubles bipolaires de type 1, l'ECT, ça marche. Ça, c'est clair. Et le traitement thymorégulateur antidépresseur, ça marche aussi. Pas chez tout le monde, une fois de plus. La RTMS, c'est en cours d'étude. Je ne peux pas ce soir affirmer que la RTMS, ça marche chez les patients bipolaires. Non, on a un protocole, on est en train de voir il faut démontrer l'efficacité. Alors, quand il y a plus de manie que de dépression, je pense que chez ces patients-là, la sismothérapie peut fonctionner, mais avant tout, c'est quand même un traitement thymorégulateur de type lithium ou d'autres qui peut être utilisé. Pour répondre à la question l'environnement, de croire que les pathologies psychiatriques sont seulement le fait de la génétique, c'est impensable. Je voudrais vous dire là ce soir, on a tous mangé de la vache folle. Et pourquoi on n'a pas tous développé la maladie ? Il y a la grippe, je ne sais plus quoi là, H1N1, mais partout quand on regarde la carte. Mais est-ce que vous êtes tous malades ? Et on peut, ainsi de suite, on peut dire... pour vous dire là que les pathologies, l'environnement joue un rôle. C'est évident. Mais on n'a pas tous la même résistance vis-à-vis des événements de vie. Vous avez connu autour de vous des parents qui ont perdu leurs enfants à l'âge de 6 ans, 10 ans, 15 ans. Et il y a des parents qui sont repartis comme avant, entre guillemets, avec une difficulté de porter le deuil, et d'autres parents qui sont complètement effondrés. Donc ça veut dire que je pense que là, il y a en effet une question de vulnérabilité et donc génétique. Et sur ce terrain-là va arriver la question de facteurs déclenchants. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une vulnérabilité, vous avez une fragilité, et le fait de consommer, par exemple, des toxiques, par exemple, de hashish. Alors là, quand je regarde des gens de ma génération ou génération plus âgée, De parler de hashish, c'est pas quelque chose de bien. Mais je peux vous dire que les plus jeunes, ils savent ce que c'est, ils ont déjà consommé. Mais regardez, tous ceux qui consomment de produits toxiques ne développent pas une psychose. Je ne suis pas là en train de dire qu'il faut en consommer. Je suis juste là en train de vous dire que tous ceux qui consomment, par exemple, de l'alcool ne deviennent pas alcooliques. Autrement dit, il y a une association entre la fragilité et le facteur déclenchant et l'événement de vie. Voilà. Et les gens les plus fragiles, ou que cette fragilité reste à déterminer, probablement génétique, et qu'il faut aller voir, pourrait expliquer que la rencontre entre un terrain génétique et un facteur de vie, une problématique quelconque, fait qu'il y a des pathologies pathologies psychiatriques qui peuvent survenir. Voilà un peu la réponse que je pourrais vous apporter. Et la question de la grossesse, de la même que la question des pathologies bipolaires chez les adolescents ou alors chez le sujet âgé, ce sont c'est une question difficile parce que je crois que c'est au cas par cas. Et la question se posera toujours en termes d'efficacité bénéfice-risque. Vous savez, bénéfice-risque, c'est ce que vous faites tous les jours. Vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter une voiture et vous comptez qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne. Et puis, je gagne plus que je perds et donc je prends. Hein? Vous voulez partir en vacances, pareil. Quoi. Enfin, la question se pose comme ça aussi pour une femme enceinte, parce que le risque pour une femme enceinte d'avoir une rechute existe. Ce risque-là existe bien. Sauf que, qu'est-ce qu'il faut prendre comme risque ? Qu'il y a une rechute avec nécessité d'une hospitalisation et mettre en place un traitement avec les effets secondaires pour l'enfant, ou faut-il garder un traitement ? Alors, la question se pose toujours en termes aussi d'antécédents, combien de fois auparavant elle a pu avoir un enfant sans problème, etc. Ça, c'est la première question. Et ce qui est vrai aussi, c'est que la nature est bien faite. Et la grossesse n'est pas une pathologie. Hein. La grossesse, c'est la normalité. Et cette normalité, pendant la grossesse, habituellement, pas toutes les femmes, une fois de plus, mais une bonne partie, ne développe pas de maladie particulière. Ça protège plutôt. Sauf que, il y a certaines femmes qui, pendant la grossesse, vont développer une hypertension artérielle, vont développer un diabète, etc. Donc, vous voyez, il y a toujours des risques. Mais ceci dit, globalement, comme chez les personnes âgées, comme chez les enfants, il faut vraiment calculer le bénéfice-risque et donner un traitement en fonction de ce calcul qui est bénéfice-risque. Et en se mettant d'accord avec les patients et avec la famille sur ce vers quoi on va. Voilà, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas après. Et voilà, merci beaucoup encore à vous tous.